Alors, oh, vous avez le micro, je m'embête. Alors, soyez bénis tous. Ah, on entend bien ? Voilà. Merci Arnaud d'être venu avec une belle personne. Merci. Ouais, soyez tous bénis, vraiment. Que vos familles soient protégées, vos enfants et vous-même. Soyez protégés. Dieu nous sauve. Soyez-en certains. Et chacun, chacune. Dieu a un projet pour nous, un projet d'amour. Et c'est à ça que je m'accroche pour le monde, pour les hommes et les femmes d'aujourd'hui, d'hier et de demain. Dieu a un projet d'amour. Voilà. On va continuer avec ce livre, « Le meilleur est devant vous ». Donc, c'est mon troisième message avec ce livre. Aujourd'hui, donc c'est un livre, je vais quand même le dire, hein, puisqu'on enregistre. Donc, c'est un livre qui a été écrit par le pasteur Patrice Martorano, donc qui fait partie de l'église de Bordeaux, rive droite. Voilà. Le meilleur est devant vous. N'abandonnez pas, c'est le thème d'aujourd'hui. N'abandonnez pas. Qui n'a jamais été découragé par la lassitude ou l'épreuve ? Pasteur Martorano se souvient d'une période où il travaillait dans un grand département, dans tout un département. Il s'occupait de plusieurs églises, mais aussi d'un groupe de jeunesse. Il prêchait plus de 300 fois dans l'année. Il avait l'impression d'être devenu une machine à sermon. Et il était las. Alors, il se répandit devant le Seigneur, et puis le Seigneur l'a relevé. Il l'a fortifié. Et il put retrouver un second souffle afin de poursuivre sa route. Mieux, il prenait un plaisir incroyable à annoncer le message biblique. Il prêchait comme en premier jour. Parfois, la vie n'est pas simple et comporte son lot de défis. L'usure a fait plier plus d'un homme, même des hommes forts. Cependant, je crois que la parole de Dieu est créatrice. Elle est capable de vous relever, de vous fortifier, afin de vous amener dans votre destinée. Un seul mot de sa part, de notre Seigneur, et tout peut changer. Et tout change. Si aujourd'hui vous êtes fatigué, que vous ne voyez que le bout du tunnel, c'est la fin. Si votre marche est devenue lourde et pesante, et que vous vivez épreuve sur épreuve, usure après usure, alors ce message est pour vous. Le Seigneur a la capacité de renouveler vos forces, de vous donner comme à l'aigle un second souffle, une seconde jeunesse. Il n'est pas rare de connaître des temps de découragement, où tout devient pénible. Durant ces moments difficiles, Dieu est toujours là, à vos côtés, pour vous ranimer en vous donnant l'espoir. Croyez-le, la parole de Dieu est créatrice. Dieu est capable de prendre une personne usée par les circonstances de la vie et de lui insuffler l'espoir, afin qu'elle redémarre. Le Seigneur ne vous laissera jamais tomber, car il vous aime. Même si les épreuves ont soufflé fort sur votre existence, et qu'un jour, il ne reste plus qu'un petit lumignon qui fume, une petite racine qui n'a pas d'apparence, le Seigneur ne vous abandonnera pas. Il vous propose de reprendre courage. On le sait, les vents contraires font partie de la vie. Est-ce que vous connaissez l'évangile de Marc ? Oui. Mais connaissez-vous Marc ? Marc, après être passé par Perge, qu'on pourrait dire lieu aride, et Paphos, qu'on pourrait dire lieu bouillant, Marc abandonna. Il retourna à Jérusalem. Nous voyons ça dans Actes chapitre 13, verset 13. Mais avant de lire Actes 13, il y a une explication qui s'impose. L'évangile de Marc ne fournit aucune indication sur l'identité de son auteur. Certains spécialistes renoncent même à toute tentative d'identification, mais la tradition dit qu'il s'agit de Jean surnommé Marc. Alors c'est pourquoi que dans les Bibles que nous avons, dans les différentes versions, on voit par exemple dans Louis II, Darby et Martin, on parle de Jean. Mais dans la version Sommer, la parole de vie, on parle de Jean-Marc. On va lire maintenant chapitre 13, versets de 1 à 13. Moi j'ai pris la version Louis II, donc on va parler de Jean, mais il faut bien sous-entendre derrière, c'est Marc. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon, appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé par Hérode le Tétraque, et Saul. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Envoyés par l'Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, d'où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient aussi Jean pour aide. Ensuite, ils traversèrent toute l'île jusqu'à Paphos, où ils trouvèrent un magicien, un prétendu prophète juif appelé Bar-Jésus. Il faisait partie de l'entourage du gouverneur Paulus, un homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et exprima le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élimas, le magicien, c'est en effet ce que signifie son nom, s'opposait à eux et cherchait à détourner le gouverneur de la foi. Alors Saul, appelé Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toutes sortes de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne vas-tu pas cesser de pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant, voici que la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » L'obscurité et les ténèbres tombèrent immédiatement sur lui et il se tournait de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider. Quand il vit ce qui était arrivé, le gouverneur crut, frappé qu'il était par l'enseignement du Seigneur. Paul et ses compagnons embarquèrent à Paphos pour se rendre à Perge en Pamphylie, mais Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Avant de débuter son voyage, Jean, surnommé Marc, avait rêvé d'un réveil sans précédent. Peut-être que dans son imaginaire, son ministère serait marqué par la puissance et une moisson sans précédent. Puis il y a eu Perge et Paphos. Il passa successivement d'un temps brûlant à une période aride. C'en était trop. Il retourna chez lui à Jérusalem. Prenons maintenant un exemple concret de ce que Pasteur Marc Torano a vécu. Quand Pasteur Marc Torano arriva à Bonn, en Bourgogne, il avait sous le bras le livre de Rick Warren. Alors, je vous donne quelques indications sur Rick Warren. C'est un pasteur baptiste. Il est né le 28 janvier 1954 aux États-Unis. Et il a écrit un livre, ou plusieurs. Et le titre du livre, c'était « L'Église, une passion, une vision ». Donc l'auteur, Rick Warren, explique à son arrivée dans le comté d'Orange, il sonda les habitants. Puis il fit une lettre en fonction des informations recueillies pour toucher la ville. Dès le premier dimanche, il y eut 500 personnes. C'est incroyable. Et sur ces 500 personnes, 300 devenaient membres après la réunion. Alors, pasteur Marc Torano, il dit « Formidable, quelle bonne idée !» Alors, il décida de faire mieux que Rick Warren. De manière rigoriste, il mettait en place la méthode. Avec l'église, ils allaient dans les rues, ils allaient sonder les gens. Suite à cela, ils ont écrit un courrier et ils ont rajouté un CD-ROM très touchant. Ils ont fait plus de 5000 lettres avec des CD qui ont été distribués dans toute la ville. Le dimanche suivant, la distribution, le pasteur Marteau Vanhoeck, qui était devant sa porte, était enthousiaste, était content. Puis une heure passa, la réunion débuta et pas une seule personne n'arriva. Le pasteur était triste. De toute évidence, Bonne ne s'y situait pas aux États-Unis. Il était tellement abattu qu'il désirait écrire un livre pour titre « Comment garder la passion et la vision quand on est dans le désert ». Le Seigneur voulait juste simplement lui enseigner autre chose. Il eut le vague à l'âme environ 3 mois. Puis le Seigneur l'encouragea. Par la grâce, l'église de Bonne connut une belle croissance. Le pasteur Marteau Vanhoeck avait besoin d'apprendre à dépendre de Dieu. Edward McKendry Boone est né le 15 août 1935. Il est connu pour avoir écrit 11 livres. Et il a écrit ceci. Les hommes recherchent de meilleures méthodes, mais Dieu recherche de meilleurs hommes. Les hommes recherchent de meilleures méthodes, mais Dieu recherche des meilleurs hommes. Alors je te remercie, Seigneur, pour l'œuvre que tu feras à travers nous. Je te remercie aussi pour ce que tu vas faire dans nos vies. Néanmoins, le plus important est l'œuvre que tu vas accomplir en nous. Alors, il ne faut pas abdiquer. Ne vous découragez pas. Ne vous déclarez pas vaincu. La première expérience, je reviens à la Bible, la première expérience de Marc fut marquée par un abandon. Un retour à la case départ. Un début difficile. Cependant, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je vais m'expliquer. Quand Marc se retrouva seul à Jérusalem, alors que Paul et Barnabas poursuivaient leur voyage missionnaire, il sut redémarrer. Pendant ce laps de temps, il devint le scribe de l'apôtre Pierre et rédigea l'évangile qui porte son nom maintenant. Auprès de Pierre, il connut une résilience, c'est-à-dire il a pu se relever et se remit dans le mouvement de la vie. Il devint à son tour une source de bénédiction. On regarde l'histoire, elle est jonchée de ces jeunes qui débutent très mal. Pourtant, la fin, elle est glorieuse. Alors, je prends un exemple. Il vaut ce qu'il vaut. En 1905, l'université de Berne refusa d'accorder le doctorat de physique à un jeune étudiant qui venait de soumettre sa thèse. Alors, on lui affirme que son travail était de la science-fiction et sans aucune valeur scientifique. Et cet étudiant s'appelait Albert Einstein. Un autre exemple, il vaut ce qu'il vaut aussi. En 1890, un jeune écolier de 16 ans reçut son bulletin scolaire de fin d'année avec cette note manuscrite, élève incapable d'exprimer aucun progrès possible. C'est fini. Et le nom de ce cancre, Winston Churchill. Wow. Alors, qu'est-ce que ça nous dit à nous? Vous aussi, vous pouvez redémarrer malgré des échecs, des abandons, ou bien ce que les gens pensent de vous. Avec Dieu, il y a toujours de l'espérance. Ces hommes, par leur persévérance, ont marqué l'histoire. Ils n'ont pas abdiqué devant la moquerie. Souvenez-vous que tous les vainqueurs, sans exception, ont dû affronter l'adversité. Il en fut de même pour Jésus au jardin de Gethsémané. Alors, n'abandonnez pas, mais avancez. Quel est le sens de notre évolution? Dans la vie, nous avançons toujours avec des bonnes ou de mauvaises raisons, des bonnes ou des mauvaises directions. C'est pourquoi la question n'est pas de savoir si on va évoluer, mais plutôt dans quel sens nous évoluerons. L'apôtre Paul parle de deux parcours opposés, celui de Démas et de Marc. Alors on voit ça dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 10 à 11. C'est pas la peine d'aller voir. Chapitre Verset 10. Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent et il est parti pour Thessalonique. Ainsi que Crescens qui est allé en Galatie et Tite à Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le-moi car il m'est utile pour le ministère. Les Écritures mentionnent Démas à 3 reprises. La première fois, elle souligne son statut de compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul. On voit ça dans Philémon, verset 24. Épaphras, mon compagnon d'activité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Ensuite, Démas est nommé parmi d'autres membres. On voit ça dans l'épître Colossiens, chapitre 4, verset 14. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Et la dernière fois qu'il est fait mention de lui, de Démas, Démas est devenu un homme qui avait abandonné Paul par amour pour le siècle présent. Démas avait bien commencé sa course, mais il l'a mal fini. Maintenant, si on regarde Jean, qui est surnommé Marc, la première fois qu'il est mentionné, c'est pour souligner son abandon. Il retourne à Jérusalem. Puis, par la grâce de Dieu, l'apôtre Pierre et finalement son cousin Barnabas s'occupèrent de lui. Durant une dizaine d'années, on n'entendit plus parler de Marc. Pourtant, il revient devant la scène. Paul lui-même appela son compagnon d'œuvre dans Philémon 24. Et dans 2 Timothée chapitre 4, versets de 10 à 11, Paul déclare qu'il est utile pour l'œuvre du ministère. Autrement dit, malgré un mauvais départ, Marc achève victorieusement sa course. C'est une grâce de bien commencer, de bien débuter, c'est une grâce. Mais n'oublions pas de tenir ferme en Christ jusqu'au bout. Alors, le doute, le manque de courage, la peur sont des facteurs paralysants. Ils vous empêchent de vous approprier les promesses divines. C'est pourquoi le Seigneur vous et nous encourage à ne pas douter, à garder le moral devant les obstacles qui se dressent devant nous et les promesses qu'il nous réserve. Notre Dieu marche lui-même avec nous. Sa main est sur notre vie. Dieu a toujours une solution. Nous pouvons considérer comme une évidence le fait que plus nous sommes occupés et moins nous avons de temps avec les autres. En règle générale, en ce qui me concerne, quand je suis à un travail et qu'une personne vienne me voir pour me demander quelque chose, je lui dis « reviens plus tard, je suis occupé ». S'il y a un moment dans la vie de Jésus où il fut affairé, ce fut lorsqu'il réglait le problème de l'humanité en mourant sur la croix. Au-delà de sa souffrance physique et émotionnelle, Jésus combattait également les puissances démoniaques. Puis au milieu de tout ça, il y a sa mère et le disciple Jean. Jésus fera une parenthèse dans cette souffrance pour se soucier de ceux qui viennent au pied de la croix. On voit ça dans Jean 19, versets 25 à 27. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple a pris chez lui. Aujourd'hui, au milieu de 7 milliards d'habitants, de catastrophes naturelles, le Seigneur, aujourd'hui, peut prendre du temps pour vous. Il n'est pas trop pris. Venez à lui, tout comme Marie et Jean, et apportez-lui votre affliction, votre souffrance. Souvenez-vous, vous courez de droite et gauche, mais il vous appelle à la croix, là où tout a été accompli. Dans Éphésiens 1, il est écrit que tout est sous les pieds de Jésus. Il y a votre avenir sentimental, votre carrière professionnelle, votre santé, vos projets, votre délivrance. Oui, tout est là. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné. Le Père a tout mis sous les pieds de son Fils et ensuite il l'a donné comme chef suprême à l'Église. Dieu entend le cri du malheureux. Jésus est sensible à ceux qui viennent exprimer leur souffrance en sa présence. Marie et Jean souffrent et Jésus les voit, il est sur la croix et il va les réconforter. Un autre exemple dans la Bible. Un jour, une jeune femme du nom d'Anne souffrait de stérilité. C'est pourquoi elle répondit son cœur devant l'Éternel. On voit ça dans Samuel 1 Samuel. Ensuite, à cela, Dieu va répondre à sa prière en lui accordant un enfant et va elle va donner à son bébé le nom de Samuel, ce qui signifie Dieu entend. J'aimerais vous encourager en vous disant que Dieu vous entend lorsque vous souffrez. Il n'est pas insensible à votre douleur. La Bible, à travers le psaume 34, verset 6, nous dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. » Oui, l'Éternel vous entend. Il nous entend. Dieu entend nos larmes, il les recueille. Son oreille est attentive aux cris du malheureux. N'en doutez pas, il peut s'occuper de vous, car Dieu est sensible. Jésus a toujours un remède. Le Seigneur trouve toujours la solution pour ceux qui viennent à ses pieds. Parfois, le dénouement est celui que vous attendiez, et parfois non. Peu importe, Dieu a quand même le remède pour vous. À la croix, nous voyons Marie et Jean dans une grande douleur. Marie perd son enfant comme toute mère elle l'aurait été. Son cœur est déchiré devant ce tableau sanglant qu'est la croix. Pendant que Jean est un jeune homme brisé par la perte de son maître qui a besoin de réconfort. Au milieu de sa propre souffrance, Jésus trouva la solution. « Femme, voici ton fils. » Puis il dit « D'ici, voici ta mère. » Et dès ce moment, le disciple a pris chez lui. En d'autres mots, Marie perd un fils, alors Jésus lui donne un autre fils. Jean a besoin d'être secouru et d'être réconforté. Il lui donne une maman. Il sait s'occuper de tous ceux qui ont besoin de lui, qui ont le cœur brisé. Il répond toujours de manière précise et pertinente à nos besoins. Si vous souffrez, alors venez aux pieds de Jésus. Il trouvera la solution. Il trouvera la conclusion à votre problème. En tant qu'homme, je peux être sensible à vos larmes. Je peux pleurer avec vous. Ce n'est pas pour autant que je vais trouver la solution. Mais Jésus, lui, notre Seigneur, a la solution. Faites-lui confiance. Le Seigneur n'est pas limité par nos impossibilités. Alors je vais conclure avec une histoire d'une pauvre veuve entourée d'impossibilités qui a reçu une grâce divine pour son épreuve de disette. Ce récit, on l'a déjà vu la semaine dernière. Enfin, précédent message. Ça se passe dans un temps de famine. Les Hébreux, peuple de la promesse, viennent de Canaan, pays où coule le lait et le miel. Seulement, leur cœur n'est plus voué à l'Éternel, mais plutôt tourné vers Baal. C'est une divinité introduite par Jézabel, fille du roi de Sidon, devenue épouse d'Achab, roi d'Israël. Et ce manque de fidélité du peuple forcera Dieu à frapper le pays et ses alentours d'une grande sécheresse. Une fois le pays accablé, dans le village de Sarepta, territoire de Sidon et pays natal de Jézabel, une veuve et son fils unique sont sur le point de mourir. Quand arrive le prophète Élie. Sans avoir l'air de se préoccuper de la situation difficile de la veuve, Élie lui demande de lui préparer un petit gâteau. La femme fit selon la parole du prophète. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, ils eurent de quoi manger. La farine qui était dans le pot ne manqua pas. L'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, selon la parole de l'Éternel avait prononcée par Élie. Dieu vit l'acte de courage de la veuve, qui, rappelons-le, était sans force, sans ressources. Il lui ouvrit les vannes de la bénédiction. Désormais, chaque jour, farine et huile se renouvelleront de manière miraculeuse dans les jarres de cette maison. Qu'est-ce que ça nous montre? D'un côté, vous avez les enfants de Dieu vivant dans le pays de la promesse où coule le lait et le miel. Ils sont entourés de possibilités et pourtant ils vivent dans la disette parce qu'ils n'ont pas la consécration de l'Éternel. De l'autre côté, vous avez une veuve, une pauvre veuve, vivant dans le pays de Jézabel et de Baal. Elle est entourée d'impossibilités. Seulement, elle a placé sa confiance dans la parole de Dieu, ce qui lui vaut la pluie de la bénédiction dans le temps de sécheresse. Bien aimée par Dieu, peu importe le pays où vous vivez, la famille où vous avez grandi, votre classe sociale, votre couleur de peau, peu importe tout cela. Ce n'est pas grave si vous êtes entouré d'impossibilités. Faites simplement confiance à Dieu et il agira. Comme il l'a fait pour cette pauvre veuve. Non, Dieu n'est pas limité par nos impossibilités. Il a toujours une solution. On va prier. Seigneur Jésus, je m'en remets à toi. Vois comme je suis usé par les circonstances. Insuffle-moi cet espoir afin que je redémarre. Je sais que les vents contraires font partie de la vie. Aide-moi à me redresser et à lutter contre ces vents. Souffle sur moi, Seigneur, pour dépasser mes échecs, mes abandons, ou bien ce que les gens pensent de moi. Donne-moi cette grâce de toujours tenir ferme en toi jusqu'au bout. J'ai une course à gagner avec toi, Jésus. Je sais que tu es sensible à mes souffrances, à mes besoins quand je suis dans ta présence. Permets-moi, Jésus, d'être chaque jour davantage avec toi. Merci, Jésus, car même si je suis entouré d'impossibilités, le fait simplement d'avoir confiance en toi, je sais que tu agis pour mon bien. Tu peux transformer mes ténèbres en lumière, mes disettes en abondance, mes maladies en guérison. Viens, Jésus, viens et sauve. Amen.